Macha Méril et Jean-Joseph Julot chez les écrivains, chez Gonzague. Donc très belle journée qui se termine maintenant. Macha, vous avez été très sollicité. On résume un peu tout ce qui s'est passé aujourd'hui pour vous.
Parce que nous avons ressuscité les poètes. Ensemble, Jean-Joseph et moi, nous avons lu du Baudelaire. Et je vous assure que c'est bouleversant, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu de poésie et qui tout d'un coup se disent « Mais zut, je passe à côté de quelque chose » et qui se précipitent pour acheter tes livres, hein, Jean-Joseph. Exactement. Il a un peu la spécialité, justement, d'ouvrir des portes, d'ouvrir des fenêtres. Et je suis très heureuse d'avoir participé à ça, parce que je pense que la poésie est une réponse formidable à tout, parce qu'elle est au-dessus de tout, même au-dessus de la littérature.
Alors pourquoi la poésie aujourd'hui est-elle le parent pauvre de la littérature ?
Je ne pense pas que ce soit le parent pauvre, c'est un parent public. Qui est toujours, vous savez, on dit que la poésie ne se vend plus. Vous avez un jeune, une jeune auteure qui s'appelle Cécile Coulon, qui a publié l'année dernière un recueil de poèmes qui s'appelle Les Ronces, qui s'est vendu à 15 000 exemplaires. C'est quand même un espoir, parce que c'est de la très belle poésie et c'est une excellente poétesse. Et aujourd'hui, j'ai été très heureux de participer avec Macha à ce spectacle, parce que c'est un spectacle qui restitue le contexte de création des poèmes. Et quand on nous a demandé de faire ça, je me suis dit... On va réunir le plus grand poète du 19e siècle, Charles Baudelaire, et le plus grand compositeur, le plus grand musicien du 20e, Michel Legrand. Michel Legrand qui était le mari de Macha, et ça a été un bonheur extraordinaire, parce qu'on avait choisi la musique du Messager, du film Le Messager, et ça s'est adapté d'une façon parfaite
au texte. Il y a une raison à ça, c'est que la poésie, c'est de la musique. Et c'est là sa supériorité par rapport à la littérature. Remarquez, les très grands auteurs, les grands écrivains sont des musiciens aussi. Parce que moi, je suis en train de faire un spectacle qui s'appelle Sorcière. Ce sont des textes de Marguerite Duras. Et je trouve beaucoup d'analogies entre Marguerite Duras et Baudelaire. Parce qu'ils avaient le sens des répétitions, des mots qui reviennent, sans accepter toutes les corrections que font les correcteurs des maisons d'édition. Vous savez, c'est terrible. Si aujourd'hui, quelqu'un avait pris les textes de aussi bien de Baudelaire que de Marguerite Duras, dans une maison d'édition, il aurait enlevé la moitié des mots. Donc, il faut un certain courage pour imposer cette façon de dire et surtout cette musicalité de la langue française.
J'aime bien le mot spectacle.
Oui, parce que c'est un spectacle et moi, je suis une femme de spectacle, moi. Donc, j'ai l'impression que j'aime bien attirer les gens dans une salle parce que c'est un peu religieux, vous savez, un théâtre. C'est un endroit où on vient se recueillir et où on vient vivre un instant unique ce jour-là avec d'autres qui sont là et qui ne ressemblera pas à un autre. Donc, cette chose-là de l'immédiateté et aussi de la concentration, c'est unique au théâtre.
Oui, c'est vrai, je pense que cette heure de spectacle qu'on a donnée a permis aux gens de s'évader et d'entrer dans un univers où tout est beau, tout est inattendu, tout est mystère aussi, parce que la poésie rejoint souvent le mystère, et quand on ne parvient pas à expliquer le mystère, c'est là qu'on a réussi. Vous voyez,
dès que c'est un peu ce que... Marguerite disait de l'écriture que c'est tenter de traduire l'intraduisible, de rendre lisible l'illisible. Et je pense que les poètes eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont poètes. Et ils ne savent pas ce qu'ils... Donc leur souffrance personnelle, parce que nous avons aussi au passage raconté un peu la biographie de Baudelaire, sa vie, eh bien c'est parce qu'ils sont des espèces de porte-parole d'une voix supérieure qui est au-dessus d'eux et qui leur dicte ces poèmes.
Exactement. C'est d'ailleurs la réflexion d'un poète qui s'appelle René Guicadou, qui est né en 1920, mort en 1951, qui disait « Je ne sais pas ce qui m'arrive. » C'est cette charge émotionnelle que je restitue à travers les poèmes. Ce sont des poèmes magnifiques. Et il disait « La poésie, c'est inutile. C'est inutile comme la pluie. »
Mais vous savez, je pense que il faut, quand on fait un bon livre, moi j'en ai fait un bon, qui est celui que je viens de vendre ici à la Forêt des Livres, qui s'appelle Vania Vassia et la fille de Vassia, qui est un roman très scrupuleux, parce que j'ai vraiment respecté le genre romanesque. Mais on est dans une espèce de transe quand on écrit. Sinon, c'est pas vrai. Sinon, s'il n'y a pas ça, ça veut dire que quelque chose est construit un peu scolaire. Et donc, cet état-là, ça ne vous arrive pas tout le temps. ça arrive par moments, et puis on le recherche, et puis on le redoute, parce que c'est quand même pénible. Il y a quelque chose qui vous isole, et en même temps qui vous... Oh, c'est toute une affaire. Et je pense que les poètes, bah, ils baignent là-dedans depuis le début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils ont souvent des fins tragiques, parce que c'est très douloureux tout ça.
Macha, nous allons parler de Vania Vassia et la fille de Vassia, que vous publiez aux éditions Liana Levy. Alors nous sommes en 1939, en Corrèze, où des Russes, une communauté de Russes qui ont fui la révolution d'octobre se sont installés. Nous sommes à quelques heures, j'allais dire, de la Seconde Guerre mondiale. Et eh bien, ils se posent des questions sur quel est l'avenir vers lequel ils vont se tourner.
Peu de gens savent à quel point il y avait de nombreuses communautés cosaques. Parce que les cosaques, c'est spécial. Hein, c'est...
Alors, qu'est-ce que les cosaques ?
Voilà, ce n'est pas une ethnie, c'est un ordre militaire. Ce sont des soldats qui étaient les soldats de l'empereur, qui étaient les soldats du tsar. Et qui faisaient la garde impériale, c'était tous des cosaques. Et quand ils ont été chassés par la révolution, parce qu'alors eux vraiment en première ligne, ils étaient orthodoxes, tsaristes, enfin bon, beaucoup ont été exterminés, ils sont venus souvent en France, parce que la France leur paraissait être une espèce d'Eldorado, un pays idéal où ils pouvaient venir s'installer. Alors ils vivaient en autarcie, ils parlaient le russe, ils mangeaient russe, ils chantaient russe, ils ne voulaient pas se mêler à la société française. Naturellement, comme ça durait, ils pensaient que le communisme ne prendrait pas, que la Russie ne pouvait pas accepter ce truc-là. Et comme ils voyaient que le temps passait, évidemment, leurs enfants sont allés à l'école française. Donc mon sujet, c'est ça. C'est une héroïne qui me ressemble un peu, bien sûr, c'est-à-dire une jeune fille de l'immigration russe, mais qui est devenue française, avec cette richesse de l'altérité russe, et mais en même temps, l'éducation française, qui se marie très bien. Parce qu'il y a quelque chose de miraculeux là-dedans. Je pense qu'il y a une fascination réciproque entre les Russes et les Français. Les Français trouvent que les Russes ont une espèce de folie prolifique, comme ça. Et les Russes pensent que les Français sont des cartésiens incroyables, incompréhensibles. Donc il y a cet alliage entre deux choses impossibles. C'est vraiment l'huile et le vinaigre. Et je suis le produit de cet alliage.
Et comme disait Maurice Chevalier, et tout ça, ça fait d'excellents Français.
Mais écoutez, j'étais à côté de Boris Cyrulnik au dîner d'hier, et je lui disais, écoutez, la France, c'est nous. En fait, lui, polonais, à moitié, tout, comme moi, 100% étranger, et moi, 100% russe, de père et de mère russe, nous sommes les meilleurs Français. Parce que nous avons une conscience de ce que c'est d'être Français. Et surtout, c'est un choix. Nous l'avons voulu. Nos parents nous l'ont proposé. Il y en a quelques-uns qui résistent, peut-être, et qui continuent dans la tradition, je ne sais pas quoi. Moi, pas. Moi, au contraire, je fais vraiment la part des choses et je me sens plus française que les Français parce que je l'ai mérité, en quelque sorte, d'être française.
Vania Vassia et la fille de Vassia, c'est publié aux éditions Liana Levy. Macha Meryl, merci.
C'est moi qui vous remercie. Bonne lecture.